latiniste-helléniste du Collège Gassendi, vous invite à écouter la présentation du projet « Fleur, dis-moi ton nom ». Le jeudi 30 mars, le groupe des 3e, à son tour, ira enregistrer des capsules traitant des plantes médicinales. Durant la semaine de la nature, entre le 24 et le 29 mai, une visite au jardin de Salagon sera organisée par Madame Tsangara Kisami, professeure de latin grec. Au mois de juin, une exposition des herbiers de chaque élève sera présentée à l'entrée du collège Gassendi à Digne-les-Bains.
Bonjour chers auditeurs, écoutez bien ce que les plantes médicinales ont à vous dire. Le monde végétal était tout aussi étroitement associé aux cérémonies religieuses. Dès le 2e siècle, apparaissaient à Rome, lors des cérémonies funéraires, les fumigations de diverses substances aromatiques. Chaque moment de la vie religieuse était voué aux plantes. Il s'agisse de libellations, d'offrandes sacrées ou d'ornements votifs.
Quelques plantes chargées de mythologie, mais écoutez plutôt. De bien nombreux mythes mettent en scène Apollon et ses descendants. Dans les cultes voués à cette famille de dieux de la santé, les hommes chantent des péons, dont l'étymologie est la même que celle de l'apivoine. Apollon confiera l'éducation d'Asclépios au centaure Chiron. Là aussi, vous devinerez une étymologie commune entre centaure et centauré. Et la couronne de laurier qui coiffe les vainqueurs. Saviez-vous que c'est à Apollon que nous la devons? Des dieux et des plantes. À ses os, dédié au processus de guérison, Aiglé, dédié à la santé recouvrée, Iji, dédié à l'hygiène, Lasso, dédié à la maladie et à la convalescence, Médricine, la guérisseuse, et Panacée, dédié aux plantes médicinales. Tout évoque la dynamique de l'état de santé et les étapes par lesquelles nous passons pour retrouver l'équilibre et le conserver. Ces principes se retrouvent encore aujourd'hui dans la pratique traditionnelle de la naturopathie et de l'herboristerie.
La pivoine, la mère de la phytothérapie, la pivoine a pour nom latin Paeonia. Ce nom de genre est lié à Paeon, médecin personnel des dieux. Les dieux se querellaient beaucoup, occasionnant de multiples blessures. Il sonna notamment celle de Zeus, Arès et Hadès avec un baume médicinal à base d'une racine végétale. Lorsqu'Asclépios apprit les compétences de Paeon, vexé, il voulut le tuer. Zeus protégea Paeon en le métamorphosant en un magnifique arbuste aux fleurs chatoyantes, la pivoine. Paeon pourrait être considéré comme le premier personnage à disposer de la connaissance de la phytothérapie et sa plante, la pivoine, comme la première plante médicinale utilisée. Avec le temps, le mot péan a été utilisé pour nommer un hymne poétique et chanté dédié aux dieux, à Apollon le plus souvent, parfois à Hygie également. L'étymologie de Paeon et de péan provient du grec paenios, qui signifie en rapport à un chant solennel.
La petite centaurée, la panacée du centaure Chiron, allons bon. Son nom latin est Centaurium eriatrae. De la famille des gentianacées, cette petite plante annuelle ou bisannuelle est aussi appelée herbe au centaure, herbe à Chiron. Ce centaure, contrairement aux autres, était sage et bienveillant. Il connaissait l'art de la médecine et n'eut pas qu'Asclépios comme disciple, mais aussi Jason, Actéon et Achille. Le nom Chiron pourrait avoir la même racine étymologique que le mot chirurgie. Il s'agirait du mot grec « keir » qui signifie « main » et qui évoque l'habileté. Le sage centaure aurait employé la petite centaurée pour guérir les blessures. Fébrifuge, cicatrisante, anti-inflammatoire et tonique amère, elles sont employées en interne et en externe. Longtemps, elle fut considérée comme une panacée et employée dans les thériaques. Ce terme, « panacée », qui est le nom d'une des filles d'Asclépios, est entré dans le langage commun et s'utilise pour décrire une plante médicinale qui s'emploie comme un remède universel.
L'aloe vera. L'aloe vera, le saviez-vous, a de multiples vertus. Lequel, me direz-vous? Le nom aloe est dérivé du mot arabe aloe, qui signifie amer, alors que vera est le nom latin pour dire vrai. Dans l'Antiquité, l'amertume de cette variété était synonyme d'efficacité. Geoff Corinne, un médecin grec et botaniste de l'Antiquité au service de l'armée de Rome, a décrit les propriétés de la plante dans son traité de Materia Medica. Elle était utilisée pour la cicatrisation, le traitement des furoncles, des irritations de l'abcès ORL, des peaux sèches et irritées, des ulcères génitaux, des ecchymoses et pour l'arrêt des saignements. De Materia Medica est un ouvrage écrit vers 60 après Jésus-Christ, source principale de connaissances en matière de plantes médicinales. Durant l'Antiquité, jusqu'au XVe siècle, qui décrit plus de 600 plantes et presque 1000 remèdes, c'est à lui qu'on doit la première description détaillée de la plante telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pline l'Ancien confirma dans son Histoire naturelle les découvertes de Dioscoride. Cependant, il alla plus loin en affirmant que l'aloe vera pouvait guérir de nombreuses autres affections, y compris les plaies lépreuses et la dysenterie. Il a également écrit que la plante pouvait réduire la transpiration. L'aloe vera était vraisemblablement mixée avec du miel et de l'essence de rose pour en camoufler l'amertume. À la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, l'aloe vera a pris une place importante dans la médecine romaine, était utilisée par les médecins tels que Lentulus, Arectas et Galien, médecin de l'empereur romain Marc Aurèle. Ce dernier était réputé pour s'être inspiré d'Hippocrate et d'Aristote, qui ont eux-mêmes été influencés par les écrits égyptiens et indiens.
Le thym. Les Égyptiens et les Étrusques utilisaient le thym mélangé aux onguents pour embaumer leurs morts. Les Grecs en brûlaient devant l'autel de leur dieu, pensant que cette plante était source de courage. Dans la mythologie grecque, Hélène fut enlevée par Paris, elle pleura beaucoup, et de chaque larme tombant sur le sol serait née une touffe de thym, plante bénie par les dieux. Voilà pourquoi il symbolisait le courage. Dioscoride et Théophraste connaissaient deux espèces de thymos, l'un blanc, médicinal et très mellifère, et l'autre noir, qui corrompt l'organisme et suscite la bile. Dioscoride prétendra même qu'elle est magique.
La menthe est le monde des métamorphoses. De nombreuses versions existent dans lesquelles est comptée la métamorphose de la nymphe mentée en menthe. La transformation de la nymphe est rapportée par Strabon. Celui-ci mentionne le fait que Mentée est piétinée par Perséphone elle-même, jalouse de son union avec son mari ou sa mère. Après sa rupture avec Hadès, Mentée se met à critiquer ouvertement la femme d'Hadès, Perséphone. Cette dernière, folle de rage, la piétine avant de la transformer en menthe. Hadès, pris de pitié pour conserver le souvenir de cette nymphe, aurait donné à cette plante une odeur particulièrement entêtante. Strabon rapporte par ailleurs l'existence d'un mont Minté, nommé d'après la nymphe. Ce mont serait situé non loin de Pylos, à l'est. Dans une autre version, Perséphone piétine la malheureuse avant d'opérer la métamorphose.
Le romarin ne rime pas avec rien. Mais écoutez plutôt. Mais quel est cet arbuste aux fleurs bleues et aux feuillages si délicieusement parfumés? Mais le romarin, bien sûr, même son nom raconte la légende. Car romarin dérive du latin romanirus, qui veut dire, bien sûr, rose de Marie.
L'Aquilée, un piège ou un sacrilège? Chers auditeurs, écoutez ce qui suit. L'Aquilée millefolium, Aquilée, millefeuille, appartient au vaste clan d'Asteracea, aux très nombreuses fleurs réunies en gros capitules. Un piège initiatique pour les apprentis botanistes, car en le voyant, on est immédiatement tenté de le ranger parmi les plantes à ombelles. Il se trouve que dans l'Aquilée millefolium, les botanistes utilisent le terme corymbe plutôt que celui d'ombelle, qui renvoie à une inflorescence en grappe, où les fleurs sont alignées sur le même plan horizontal. La sauvage tire de son nom d'Achille, héros mythique de la guerre de Troie, qui s'en servit pour guérir des blessures. Pas les siennes, mais celles d'un roi, car en dehors de son célèbre talon, Achille était invulnérable. C'est en tant que plante médecine qu'Aquilée millefolium a tissé sa légende à travers l'histoire. Depuis les tombes néandertaliennes, où des traces de la sauvage ont été observées parmi d'autres pharmacopées rudimentaires. En passant par les Celtes, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où elle est l'herbe militaire.
Le millepertuis, plante aux mille portes. Les habitants de la Grèce antique s'en servaient pour éloigner les mauvais esprits. Ils pensaient que, déposé sur le rebord d'une fenêtre, le millepertuis protégeait de la foudre, du feu, et chassait fantômes et malfaiteurs. Certains le brûlent pour bannir esprits et démons. Si la plante est cueillie à la Lita, vers le 21 juin, et qu'elle est portée sur soi, elle éloigne les maladies mentales et soigne la mélancolie. Une jeune fille, pourchassée par le diable, se serait cachée dans un champ de millepertuis. Satan aurait trouvé toutes les feuilles des plantes afin de la retrouver. Les femmes célibataires qui déposent du millepertuis sous leur oreiller rêvent de leur futur mari. De plus, celui-ci assure aux dormeurs d'être épargné par la mort. En Grèce antique, le millepertuis est associé à Apollon et dans la mythologie nordique, au dieu Baldur. En astrologie, il est dédié au cancer et au lion.
Le calendula ou le souci, mais écoutez plutôt. Dans la mythologie grecque, le souci représente en effet l'amour brûlant. Amoureuse d'Apollon, dieu du soleil, la jeune Kelta attendait chaque matin les premières lueurs du jour. Mais brûlée par sa passion, elle mourut et se transforma en fleur soleil, c'est-à-dire en souci. Quatre nymphes des bois sont tombées follement amoureuses du dieu Apollon et sont devenues jalouses les unes des autres. Cela les a tellement distraits qu'elles ont fini par ignorer leur obligation envers Artémis, déesse de la chasse et de la nature sauvage, qui les a transformées en quatre soucis blancs ternes qu'Apollon s'affligeait de voir. Il ne put faire autrement que d'en colorer les fleurs à l'aide des rayons du soleil. C'est à partir de ce jour que les soucis portent des capitules jaunes d'or ou oranges dont les têtes suivent la course du soleil pour évoquer les souvenirs d'amour de ces nymphes qui n'eurent Dieu que pour le lumineux Phoebus.
La gentle dame, la gentiane, a des choses à vous dire. Écoutez bien. La gentiane bleue est une plante originaire des régions tempérées d'Asie, d'Europe et d'Amérique. On peut la trouver dans les Alpes, le Massif central, les Pyrénées ainsi qu'entre les rochers, en lisière de forêt ou dans les prairies lors d'une promenade. La gentiane est une plante très ancienne et son histoire remonte à l'Antiquité grecque. À l'époque, elle était réputée pour ses vertus curatives. Elle est aussi associée à de nombreuses légendes et mythes, et a priori, elle tire son nom de Gentius, c'est le nom d'un célèbre roi d'Illyrie, l'actuelle Albanie, qui a régné au IIe siècle avant Jésus-Christ. Utilisée dans la fabrication de nombreux remèdes miracles, la gentiane était aussi un ingrédient phare dans la production de boissons alcoolisées. Ses racines permettent de préparer des liqueurs ou des apéritifs. Au fil du temps, la beauté de la gentiane a séduit les amoureux des plantes, les botanistes et les jardiniers. De nombreux botanistes ont réalisé des hybridations, ce qui a donné naissance à des centaines d'espèces.
Le safran, ou plante du safran. L'histoire du safran, que ce soit au niveau de sa culture ou de son usage, remonte à plus de 3500 ans et traverse plusieurs sociétés, continents et civilisations. Il existe un mystère sur l'origine du safran. Il serait né quelque part entre la Turquie et l'Inde, se propageant ensuite autour du bassin méditerranéen oriental. La fleur du safran serait en fait issue d'un ancêtre sacré, certainement d'origine grecque, Crocus. D'après Philon d'Alexandrie, Crocos jouait avec le dieu Hermès au lancer de disque. Il reçut un coup sur le front, ce qui provoqua une blessure mortelle. De son sang répandit, naquit ainsi la fleur de Crocus. Ovide, dans les Métamorphoses, donne une autre version mythologique. Crocus tombe amoureux de l'inaccessible nymphe Smilax. De par cet amour malheureux et impossible, tous deux furent transformés en fleurs. Selon la mythologie romaine, le safran serait né de l'entrainte charnelle entre Jupiter et Junon, toutes les propriétés aphrodisiaques qu'on lui attribue. Cléopâtre se servait du safran à cause de ses propriétés cosmétiques, aphrodisiaques et ses qualités de colorant. Elle élabora la première véritable eau de toilette nommée Kifi, qui devint ensuite par un encens sacré par les Égyptiens. Le Kifi avait le pouvoir de conduire vers le sommeil, d'éclairer les rêves, d'apaiser les tensions de l'anxiété quotidienne en menant calme et quiétude à tous ceux qui le respiraient. Ainsi, on brûlait le Kifi le soir afin d'effacer les soucis de la journée.
Le Moly, ou la plante de la magie. Lors de la rencontre d'Ulysse et Circé, une autre plante magique est convoquée, le Moly. Réelle ou divine ? Nous ne tenterons pas de répondre à la question de l'origine de cette plante. Néanmoins, il est intéressant de constater que, pour contrer les pouvoirs de Circé, elle qui seule sait les vertus des plantes et sait doser un bon mélange, Hermès offre à Ulysse un végétal appelé herbe de vie. Selon l'Odyssée, Hermès en offre à Ulysse comme antidote au sortilège de la magicienne Circé, qui transformait ses hommes d'équipage en porcelets. Le dieu au rayon clair tire du sol une herbe qu'il m'a appris à connaître avant de la donner. La racine en est noire et la fleur, blanc de lait, mollue, disent les dieux. Ce n'est pas sans effort que les mortels l'arrachent, mais les dieux peuvent tout. Elle est également citée par Ovid lorsqu'il reprend l'épisode dans ses métamorphoses.
Les gouttes de sang. Selon la mythologie grecque, Adonis était un très beau garçon. Aphrodite, déesse de l'amour, en tomba amoureuse. Adonis passait la plupart de son temps à la chasse et Aphrodite, déguisée en chasseresse, aimait l'accompagner. Un jour, qu'il chassait seul, Adonis tenta de tuer un sanglier avec sa lance, mais ne fit malheureusement que le blesser, et la bête, folle de rage, l'embrocha. Aphrodite, qui l'entendit crier, accourut près de lui. Il saignait beaucoup et la déesse ne put le sauver. Elle l'embrassa donc lorsqu'il mourut et, par son baiser, le métamorphosa en fleur couleur rouge sang. Ainsi seraient nés les Adonis gouttes de sang.
La mandragore. Décrite par les auteurs grecs antiques comme le botaniste Théophraste, ou par le médecin Dioscoride dans son traité de Materia Medica et Variété, elle a été rapprochée ou assimilée à d'autres plantes mythiques. Par exemple le moly, plante donnée à Ulysse pour contrer les sortilèges de Circé, ou l'idudaïme, que Rachel demande à sa sœur Léa pour guérir sa stérilité et donner un enfant à Jacob. La mandragore était considérée comme un aphrodisiaque, en raison de la ressemblance de sa racine avec un corps humain. Une petite racine adventice ou une fente entre les deux racines, évoquant les jambes faisant penser au sexe masculin ou féminin. La théorie des signatures associait des plantes à des organes leur ressemblant, la pulmonaire et le poumon, l'hépatique et le foie. Et chers auditeurs, le suspense est entier. La suite au prochain épisode, s'il y en a un autre. Les élèves du collège Gassendi vous remercient, ainsi que leur professeur Madame Tsangara Kisami. Un grand merci à Odile Frison de Fréquence Mistral sur 99.3.